On va maintenant revenir sur un point crucial de la jeunesse de Daesh qui prend naissance dans la division entre chiites et sunnites arabes, mais aussi de manière beaucoup plus récente dans la façon dont ont été traités les sunnites d'Irak et de Syrie ces dernières années. Alors pour Myriam Benrad, chercheuse associée à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, ce qui explique la naissance de Daesh est avant tout ce qu'elle appelle l'humiliation sunnite en Irak. Une humiliation qui a été transformée en une colère qui a éclaté sous la forme des djihadistes de Daesh. Revenons un peu en arrière. Chassés du pouvoir en 2003, les sunnites irakiens sont humiliés par les chiites et assistent en 2006 à l'élection de Nouri al-Maliki, premier ministre d'Irak. Ce chiite se fait élire sous la promesse de réconciliation entre les communautés, au plus fort des tensions intercommunautaires justement. Il est reconduit dans ses fonctions en 2010, alors qu'il a officiellement perdu face au candidat favori des sunnites, un chiite laïque nommé Iyad Alaoui. Y a-t-il encore en Irak, dans le camp sunnite, des voix modérées qui seraient susceptibles, je ne sais pas, de faire contrepoids au discours de Daesh, d'offrir peut-être une alternative politique viable ?
Les voix modérées en Irak aujourd'hui, dans le camp sunnite, difficile. Les Arabes sunnites en Irak dominent le pays depuis l'époque ottomane. Mmh. Saddam Hussein était un Arabe sunnite justement de Tikrit qui régnait avec ses tribus sur l'Irak en s'enveloppant, en se protégeant avec une idéologie bassiste qui servait plutôt à éliminer du pouvoir la majorité chiite et à justifier un génocide contre les Kurdes. Donc effectivement, à partir de 2003, la loi du nombre l'emporte. Les chiites et les Kurdes prennent leur revanche sur les Arabes sunnites qui les ont dominés, marginalisés et persécutés jusque-là.
Est-ce que la partition du pays qui a été proposée par Joseph Biden en trois blocs communautaires et confessionnels, donc le nord qui serait aux Kurdes, le centre pour les sunnites et le sud du pays pour les chiites, est-ce que ça pourrait être une voie de sortie possible ?
C'est ce qui est en train de se profiler. De toute façon, le gouvernement régional du Kurdistan existe, la langue kurde est officielle, il y a des frontières avec des checkpoints tenus par les Peshmerga. Donc de ce côté-là, il est clair que le Kurdistan est proche de l'indépendance s'il le souhaite. Le sud chiite, bon, il n'y a pas de souci aussi, ils sont constitués un bloc assez homogène et ils ont des réserves pétrolières. Le problème, ça sera pour les sunnites, parce que la zone sunnite, là aussi, est assez bien homogène, mais il n'y a pas de pétrole, puisque les champs de Kirkouk, aujourd'hui, sont entre les mains des Kurdes. Donc, les sunnites, s'ils se retrouvent seuls, ils se retrouvent sans ressources. Et par conséquent, un petit territoire qui peut rentrer vite dans une paupérisation qui fera le lit, évidemment, du terrorisme.
Alors, on retrouve cette tournure confessionnelle en Syrie également, même si la crise syrienne est née de causes différentes. La guerre civile syrienne oppose une insurrection à dominante sunnite, parce que le pays est composé à 70% de sunnites, à une coalition de minorités ethniques et religieuses qui soutiennent le gouvernement de Bachar el-Assad, qui représente donc le front chiite et alaouite. Alors Daesh en Syrie, c'est aussi en 2012 la création d'une branche syrienne, le front al-Nusra, qui regroupe entre 10 000 et 20 000 combattants. Le problème, c'est que Jabhat al-Nusra, comme il est aussi appelé, n'est plus du côté de Daesh. C'est bien ça, Fabrice Balanche ?
Oui, alors effectivement, lorsque al-Nusra arrive en Syrie très tôt, durant l'année 2012, à l'époque, les gens de Daesh en font partie. Al-Nusra est venu d'Irak, Baghdadi et al-Jolani. Al-Jolani, c'est un Syrien, donc dirige ce mouvement et s'installe en Syrie, combattent aux côtés des autres rebelles syriens et finissent par s'imposer à Raqqa dès le mois de mars 2013. Et à partir de là, il y a eu une querelle de stratégie, une querelle d'ego entre al-Baghdadi et al-Jolani. Al-Jolani claque la porte et emporte al-Nusra avec lui, avec plutôt les combattants syriens, tandis que al-Baghdadi, s'appuyant sur les combattants étrangers, irakiens et tchétchènes, fonde Daesh.
Mais est-ce qu'on n'a pas des échanges entre ces deux groupes radicaux avec des combattants qui passeraient de l'un à l'autre, par exemple ?
Alors, il y a eu une guerre entre Daesh et al-Nusra durant l'hiver 2013-2014, où ça a été très très violent. Daesh étant chassé de la région d'Alep, tandis que al-Nusra est chassé ou éliminé de la région de l'Euphrate. Et on a des groupes qui appartenaient à al-Nusra dans la région de l'Euphrate qui vont rejoindre Daesh. Parce que, idéologiquement, il n'y a aucune différence différence entre les deux. C'est plutôt une querelle d'ego en fait entre les deux groupes. Daesh est une organisation extrêmement centralisée, tandis que Al-Nusra est beaucoup plus fédérale. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de groupes aujourd'hui qui appartiennent à Al-Nusra qui pactisent finalement avec Daesh. À mon avis, Al-Nusra va éclater parce qu'il y a eu des querelles de sang dans la région d'Alep qui rendent la fusion totale complètement impossible. Mais justement, si Daesh aujourd'hui s'attaque au centre de la Syrie, la région de Hama, la région de Hula, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont des partisans dans les groupes islamistes locaux, y compris chez ceux qui ont fait allégeance à Al-Nusra.
Alors donc, on vient de parler de Jabhat al-Nusra, rester fidèle à Al-Qaïda pour l'instant. Et on a quelque peu tendance à oublier Al-Qaïda, tant il est vrai que toute l'attention s'est trouvée mobilisée par Daesh. Al-Qaïda semble presque avoir été remplacé par Daesh aujourd'hui. C'est un groupe terroriste qui est mort, avec des combattants qui ont rejoint le ou reste-t-il dans l'ombre à attendre son heure, toujours dangereux?
Al-Qaïda existe toujours. Il y a toujours des gens qui lui prêtent allégeance au Yémen, en Afrique subsaharienne avec ACMI. En Syrie, enfin, on a toujours une implantation Al-Qaïda, mais il est vrai que Daesh aujourd'hui est beaucoup plus médiatisé, beaucoup plus à la mode et attire davantage les djihadistes et les financements qu'Al-Qaïda. Mais il ne faut pas enterrer trop vite Al-Qaïda. Ayman al-Zawahiri conserve quand même une forte audience sur une partie de ces groupes terroristes.
Alors on va revenir maintenant point par point sur les désaccords entre les deux organisations qui touchent à la stratégie même des djihadistes. Al-Qaïda privilégie la déstabilisation des régimes à l'étatisation, qui est préférée et mise en place pour l'instant par Daesh. Et puis on a aussi l'intransigeance de Daesh qui veut frapper d'abord au niveau local et régional et non pas les pays lointains comme le faisait Al-Qaïda dans une stratégie de djihad global. Il faut s'occuper des chiites qui sont l'ennemi proche, alors que peut-être Al-Qaïda se montrait justement plus inclusif à leur égard. Cette extension du domaine de la lutte se vérifie au Moyen-Orient et au Maghreb. L'Égypte, la Libye, la Tunisie et le Yémen ont été l'objet d'attaques revendiquées par Daesh.
Oui, effectivement, on avait une dissociation entre Al-Qaïda et Daesh sur les objectifs. Daesh, c'était plutôt épouser les combats locaux des Arabes sunnites contre les Kurdes et contre les chiites. Pour Al-Qaïda, ça c'était secondaire. Il fallait d'abord s'occuper des Occidentaux, d'Israël, et de faire tomber aussi les régimes hypocrites, Mounafek en arabe, vendus aux Occidentaux. Voilà. Et en frappant l'Occident, justement, c'était une manière d'obliger les Occidentaux à arrêter de soutenir les régimes arabes séculiers qui empêchaient justement la montée des mouvements islamiques. Daesh avait une autre stratégie. Mais on le voit aujourd'hui, en frappant le musée du Bardo à Tunis, les attentats en France au mois de janvier, il y en a d'autres qui vont suivre, on s'aperçoit que Daesh frappe aussi les intérêts occidentaux, mais non pas à travers des attentats spectaculaires. Et là, c'est plutôt la stratégie d'Abu Moussa Bessouri, qui est un autre idéologue dont s'inspire beaucoup al-Baghdadi et avant lui Zarqawi, qui consiste en fait à créer des cellules autonomes, autoradicalisées, qui ont des objectifs... synagogues, écoles juives, intellectuelles, etc. Et qui vont passer à l'acte de manière totalement indépendante d'ordre qui viendrait d'une centrale avec laquelle finalement ils ont des liens extrêmement lâches. Et contre ça, évidemment, les services de renseignement sont complètement désemparés.
Alors plus simplement aussi peut-être, on a une différence de génération. D'un côté, la génération de Ben Laden et de son successeur qui ont fait le djihad en Afghanistan, et de l'autre, celle de Zarqawi avec comme référence le djihad contre les Américains en Irak. Et puis aussi une différence de taille, l'utilisation massive et beaucoup plus efficace des moyens de communication modernes, des réseaux sociaux et d'autres médias, qu'avait peut-être méprisé Al-Qaïda.